Salut tout le monde, nous revoilà encore YouTube Space, et cette fois-ci ça va être pour un débat sur Final Fantasy XV. Et pour ce débat, je suis en compagnie de Bastien du site FF Ring.
Salut.
Je suis en compagnie de Jérémy du site FF World.
Salut.
Et de Jérôme de FF Dream.
Bonjour.
Et vous le connaissez sûrement, mais voici Cristiano Ronaldo de Finaland.
La star.
La star, bon, voilà. Donc, je vais d'abord vous poser une question très très simple pour Final Fantasy XV. Le débat va se passer sur deux parties. Une première sur le jeu, sur ses points forts, ses points faibles, et ensuite sur le développement qu'il a eu pendant ces 10 dernières années.
Donc c'est un podcast de 3h30, hein, c'est ça?
C'est 3h30, on va essayer de raccourcir ça, mais c'est pas très loin. Donc, première question que je te posais, Bastien. Quels sont les points forts du jeu, à ton avis?
Alors, les points forts de FF15, en tout cas moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai commencé l'aventure, c'est l'immensité de l'open world. Mine de rien, c'est quand même le premier FF à s'aventurer dans un monde aussi ouvert. Donc je pense que même s'il a des défauts, même si on peut trouver des choses à redire dans la façon dont l'open world est construit, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le monde est assez grand. Pour ce qu'on a l'habitude dans Final Fantasy, et surtout il y a des panoramas qui sont assez exceptionnels. Donc moi ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, et notamment le travail sur la lumière qui confère à la direction artistique une vraie une approche qui moi m'a beaucoup touché dans le jeu.
Et vous partagez tous ce point?
Oui, absolument.
Clairement, ouais.
Mais donc finalement c'est Final Fantasy XV, bah, qu'est-ce qui fait que c'est un Final Fantasy dans son ADN ou dans sa conception? Jérémy, par exemple.
C'est une question vachement compliquée, en fait.
Mais finalement ouais. Qu'est-ce qui fait que tu joues à un Final Fantasy et pas à un autre RPG? Qu'est-ce qui fait que ce jeu ressemble à un Final Fantasy et pas à un autre?
Sur celui-là, c'est étonnant parce que moi, j'aurais été capable de répondre pour d'autres. Mais là, pour sur le 15, j'ai vraiment du mal à trouver une réponse évidente comme ça sur qu'est-ce qui en fait un FF dans son ADN. À mon avis, c'est comme pour tous, l'état d'esprit dans lequel il a été conçu. Mais c'est très vague comme façon d'écrire un FF. Donc je...
On pourrait donner autant d'arguments sur pourquoi il s'éloigne aussi de la série, en fait. Parce que comme il s'occidentalise énormément, je pense que c'est un peu la conception qu'en ont les réalisateurs. Il a autant de liens d'atomes crochus avec la série qui s'en écarte. Je pense qu'effectivement, dans son développement, dans son ambition de faire quelque chose de complètement nouveau, ça, il le réussit bien.
C'est une occidentalisation tout de même, plutôt en termes de game design, de concept global du jeu, pas d'approche stylistique. Il est quand même très japonais dans l'esprit.
C'est vrai qu'on retrouve, comme l'a dit Bastien, on retrouve évidemment le monde fantastique qu'on recherche dans les FF généralement, avec des créatures extraordinaires, des choses comme ça.
Les mythologies communes aussi.
Voilà, et puis il y a aussi le lien avec le héros principal qu'on suit dans l'aventure. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans tous les FF. Après, c'est sûr qu'il y a un côté plus occidental dans celui-ci, mais...
Je pense qu'on retrouve toute la mythologie peut-être dans le dernier tiers du jeu où très clairement ce que l'on voit à l'écran c'est absolument du FF. Je pense qu'on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais la fin du jeu est FF. On ne pouvait pas faire à mon avis plus Final Fantasy et plus exceptionnel à mon avis dans la façon dont le jeu se termine. Donc en ça je pense qu'il tient vraiment ses promesses.
Je vois. Mais finalement les dernières productions de Square Enix vis-à-vis de Final Fantasy ont été assez mitigées ou parfois vis-à-vis de certains fans étaient pas du tout en accord avec la licence. Finalement ce Final Fantasy XV l'est plus que les dernières productions ou...
Je pense pas, FF14 par exemple répond tout à fait à la charte Final Fantasy, même si la première version du jeu a peut-être fait pas mal d'erreurs. Je pense que les derniers FF ont tous quelque chose de Final Fantasy. Ça se traduit un peu différemment à chaque fois.
D'accord. Bah, tu mets surtout le doigt sur le fait qu'on a tous une vision assez différente de ce qu'on attend et voilà.
Exact.
Moi par exemple, tu me parles d'FF13, il y a des choses qui m'ont beaucoup comblé dans ce jeu, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde.
Chaque FF, chaque directeur a sa vision de ce qu'il veut faire aussi.
Mais c'est vrai que globalement, à partir du 10, il y a eu des gros changements, une volonté de changer certaines choses et certaines personnes ne s'y retrouvent pas. De nouvelles personnes pensent y retrouver le Final Fantasy qu'ils aiment dans ces nouveaux jeux. plutôt que...
Et je pense que c'est un peu la difficulté d'ailleurs pour les réalisateurs successifs de la série, c'est qu'ils essaient à la fois de traduire un peu leur vision, leurs ambitions, tout en voulant contenter peut-être des publics qui sont hyper variés. Nous-mêmes, tous les quatre, tous les cinq, même, on a des attentes complètement différentes. Certains ici attendent peut-être FF7 Remake, ça serait l'objet d'un autre débat, d'autres peut-être un peu moins. C'est pas pour aujourd'hui, sinon le podcast va vraiment durer longtemps. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans la série. C'est-à-dire que là où d'autres séries, d'autres grandes sagas du jeu vidéo essayent toujours de respecter une certaine charte, on va dire, FF peut, parce que dans son ADN a envie de se renouveler systématiquement, peut faire le pari de changer complètement sa vision.
Et le fait est qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est comme ça sur tous les épisodes. On peut très bien en aimer un et le suivant, on va le trouver beaucoup plus attirant parce qu'il sera très différent.
C'est un FF pour les fans et les nouveaux venus.
Voilà. Et après aussi, ce FF-là était présent dans nos esprits depuis déjà 10 ans, c'est surtout ça.
Bien sûr.
Ouais. Mais finalement, là c'est encore tôt, mais si dans 10 ans, projetez-vous dans 10 ans, qu'est-ce que vous retiendrez de ce Final Fantasy ? Par exemple, Jérôme, de ce Final Fantasy-là, qu'est-ce que tu retiendras dans 10 ans ?
Je pense que je retiendrai quand même une longue attente. Je retiendrai aussi.
Tu parles des temps de chargement là, c'est ça. Pardon.
Ça dépend de la façon dont on joue, hein, qui ont duré à peu près 10 ans les temps de chargement.
Il faut rester dans les bons points. Reste dans les bons points.
Là, tu veux aussi parler des plus négatifs, hein, on n'est pas là pour rendre le jeu.
Je retiendrai quand même l'univers qui est toujours un nouvel univers à chaque fois. Donc, chaque FF est celui-ci est très marquant. Il y a vraiment une ambiance dans tout ce qui est le monde du Lucis, c'est vraiment donne vraiment un point où se référer. Et la musique. Je pense que niveau musique.
On
a un certain retour.
C'est sûr que dans les points forts, la musique, c'est évident pour tout le monde, je pense.
J'ai quelques réserves sur la question de la musique qui ne sont pas liées à sa qualité, parce qu'elle est de très bonne qualité, quoique il y a quand même pas mal de remplissages.
Alors, moi aussi, j'ai quelques réserves. On pourra parler de la façon dont elle est mixée.
Mais des réserves placées dans son utilisation, exactement. Ouais.
Placées dans le jeu.
Au point de vue du rythme. OST de jeu vidéo. C'est une OST qui est assez différente que ce qu'on retrouve. Hein. Elle est assez marquante, finalement, dans 10 ans, tu retiendras toujours que ce sera l'OST de Final Fantasy XV, hein, avec les premières notes et tout.
Ah oui, bien sûr.
Que ce sera l'OST
de ça, une question de style, il n'y a pas de souci là-dessus, effectivement, elle appartient à son jeu.
Ah oui, un style particulier. Et toi, tu penses qu'au niveau de l'utilisation, en fait, il y a des musiques qui n'arrivent pas au bon moment ou au bon endroit, par exemple ?
Ça, c'est contrasté, parce que, par exemple, l'utilisation des musiques d'exploration, le simple fait d'ouvrir le menu, ça te la coupe, elle ne se relance pas derrière. Ça, je trouve que c'est vraiment
tout à fait
aberrant.
D'accord.
C'est vraiment aberrant.
Il ne devrait pas y avoir de musique.
Ça casse le rythme un peu.
Là, c'est au niveau du développement, pas de l'OST directement.
Bah, c'est la façon dont il est intégré dans le jeu. Hein. C'est une question de, pas de développement, mais une question de design.
Ça, c'est un exemple. Moi, j'en ai un autre, c'est par exemple, on lance la partie, un menu de chargement arrive, il aurait été de bonne aloi, je pense, de laisser la musique du menu.
C'est possible.
Plutôt que d'avoir un silence total.
Mais c'est étonnant parce qu'il y a d'autres points sur lesquels la musique est intégrée vraiment super bien. Tout ce qui est en termes de combat et les derniers combats, l'intégration de la musique est hallucinante. On n'avait jamais vu ça dans un FF avant. Hein. La façon dont les boucles s'enchaînent de manière logique, c'est vraiment très bien conçu.
Et Kingdom Hearts, par exemple.
C'est vrai que le combat final du 2 est comme ça, c'est vrai.
Oui, voilà, il y a quelque chose dans l'OST qui faisait assez Kingdom Hearts.
Bah, je trouve que les musiques, ça rend vraiment les combats épiques. Quoi. Rien que la musique, déjà, rend les combats épiques, même si le combat peut être mauvais. La musique va te mettre dedans tout le temps, à chaque fois.
C'est vrai.
D'ailleurs, parfois, la musique est épique pour un combat qui, finalement, est torché en 10 secondes. Quand on commence à monter en niveau et qu'on se retrouve avec la musique la plus épique des combats classiques, on va dire, on peut avoir un certain décalage. Je pense que le côté open world aussi peut... On peut poser problème dans l'intégration de la musique parce que dans le design du jeu, certaines musiques vont se déclencher, comme on sort d'une zone... Tout ça peut nuire un petit peu à son intégration, mais la musique, je pense, en termes de qualité et de composition, elle est suffisamment variée, suffisamment belle.
Pas mal de remplissage, pas mal des pistes qui sont pas mémorables, mais voilà, ça c'est...
Très bonne.
En fait, ça dépend. Est-ce que c'est une échelle jeu vidéo ou une échelle Final Fantasy, c'est ça?
C'est une échelle personnelle, en fait. Ouais, mais surtout, en fait, c'est la plupart du temps les musiques qui ne sont pas de Shimomura, en fait.
J'aurais mis
ça
à l'expert.
Les différentes musiques qui ont été composées par d'autres compositeurs, Tetsuya Shibata, Yoshino Oki, qui ont travaillé sur une 15-20 pistes environ, moins que ça. C'est pas toujours très mémorable. On sent que ça a été fait en plus parce qu'il fallait remplir des passages où Shimomura n'était pas sûr de pouvoir remplir ce genre de style. tout ce qui fait country, tout ça, c'est pas elle qui l'a composé. Donc,
ouais. Mais j'ai des réserves, je suis désolé, mais bon.
Si on devait, ta question était, qu'est-ce qu'on retiendra dans 10 ans? Je pense qu'on retiendra l'ambition d'un réalisateur qui a peut-être pas réussi à concrétiser tout ce qu'il avait en tête. Mmh. Je pense que c'est un peu ce qui nous a tous marqué, c'est que on a tous vu les défauts du jeu. Il y en a, ils sont indiscutables, voilà. Après, on a tellement une affection, je pense, pour le jeu, parce que ça fait 10 ans qu'individuellement, on écrit dessus aussi, et ça, faut pas l'oublier, c'est que ça fait 10 ans qu'on écrit chaque jour, quotidiennement, sur l'actualité de ce jeu, qu'on veille aussi.
Au point de s'en dégoûter, hein, d'une certaine
manière. Ah oui, au point de s'en dégoûter. Moi, clairement, j'en avais plein le cul à partir du mois de juin. Je pense qu'on est...
Faut pas dire de grossièreté.
Si, on en avait plein le cul. et du coup, ça, je pense que cette affection qu'on a, parce qu'on a rencontré aussi le réalisateur plusieurs fois, qu'il est en plus très sympathique, je pense que ça peut nous permettre de comprendre un peu mieux comment le jeu a été conçu et d'être peut-être un peu plus clément avec le jeu, alors qu'un joueur qui ne connaît pas comment le jeu a été développé, qui arrive dedans, qui ne connaît pas la série, pourra être un peu déçu, surpris.
Non, mais c'est... Ou pas d'ailleurs. Hein. Ah, moi, je pense qu'il pourrait au contraire être... plutôt, hein,
je dirais. C'est paradoxal justement, parce que vu que nous on connaît le développement depuis ses prémices, on sait aussi ce qui a été bâclé, ce qui a été raté, ce qui manque au jeu par rapport à ce qu'il y avait par exemple pendant les 10 ans. On se rend mieux compte de ce que aurait pu être le jeu, et finalement pour moi ce que je retiendrai dans 10 ans, c'est peut-être le mot frustration. C'est que le jeu aurait vraiment pu être exceptionnel, et qu'au final, avec tous les problèmes qu'ils ont eu et les retards, etc., le jeu a été un petit peu mal fini, et aujourd'hui on a un jeu qui peut être un peu décevant pour certains, mais alors qu'il aurait pu vraiment être gigantesque.
Mais donc finalement pour toi, qu'est-ce qui manquerait au jeu pour qu'il soit meilleur?
2 ans de développement.
C'est ça aussi le problème. Les jeux sont de plus en plus énormes, ça demande de plus en plus de gens.
Quand est-ce qu'on s'arrête?
C'est quand est-ce qu'on s'arrête, exactement. C'est ça le souci.
C'est vrai qu'on a l'habitude avec les Final Fantasy d'avoir des Final Fantasy toujours très finis, et toujours vraiment en produit fini quand ils sortent en boutique. Et là, on a toujours des petits détails, des petits machins qui vont pas. On n'a pas l'habitude de ça. Nous, on les voit, ces détails.
C'est un peu le seal of quality qu'on avait chez Nintendo pendant un temps, et on a l'impression de pas vraiment être en présence d'un jeu Square Enix tel qu'il pouvait les terminer et les chignoler à une époque. Alors je parle pas du 14 qui pour le coup a eu 2 développements différents.
Tout à fait. Mais justement c'est ça le problème, c'est qu'ils peuvent plus se permettre de faire ça maintenant. Ouais. L'époque a changé et les jeux demandent tellement de temps et tellement de main d'œuvre, tellement de budget aussi, faut pas oublier ça, que soit ils revoient à la baisse leurs ambitions et c'est pas ce qu'ils ont voulu faire cette fois-ci, soit ils sortent un jeu qui manifestement n'a pas pu concrétiser l'intégralité des ambitions qu'ils voulaient.
Et je pense qu'on est de plus en plus dans une logique aussi de... c'est pas un MMO offline, mais il le voit un peu comme un jeu service. Alors c'est pas non plus Hitman, hein, qui lui a été conçu complètement comme ça, mais voilà, ils vont ajouter des choses, ils vont faire un festival en janvier à durée limitée. Je crois que c'est la première fois dans un RPG, dans un FF c'est sûr, mais surtout dans un RPG qu'on a des événements, un RPG qui est pas online à la base quand même, qu'on a des événements à durée limitée. Ils vont ajouter des patchs, ils vont ajouter des contenus, ils vont réparer des erreurs aussi, ils l'ont avoué eux-mêmes, il y a des choses qui vont pas, on en reparlera peut-être après.
Il y a quelques jours, Tabata disait même encore qu'il travaillait sur une sorte d'extension inconnue dont il voulait pas parler sur le 15.
Sur des fins multiples ou quelque chose de...
Ça c'était pour les DLC plutôt, les fins multiples.
Mais donc finalement, j'ai pas eu ta réponse pour qu'est-ce que tu retiendras dans 10 ans vis-à-vis de ce Final Fantasy 15.
Moi je trouverais ça décevant quand dans 10 ans on retienne une frustration et 10 ans de développement, parce que ce serait réduire le jeu à ce qui s'est passé avant sa sortie et pas ce qu'il est en tant que jeu. Donc c'est vrai, le jeu est la victime de ce qui s'est passé pendant son développement, ça c'est sûr. Moi j'avais envie quand même de lui chercher ses qualités intrinsèques, de me dire il y a peut-être des gens qui vont arriver dessus, qui l'ont jamais entendu parler avant, qui vont dire waouh, c'est impressionnant comme jeu. Et moi je veux pas oublier le fait qu'ils ont relevé un défi impressionnant, c'est de faire un open world dans le contexte de FF, dans un contexte où on sait que les jeux japonais ont périclité pendant la génération précédente. Là, ils reviennent avec un jeu superbe, impressionnant, spectaculaire. Je me dis, ça, c'est quand même bien de ne pas négliger cette partie-là, et j'aimerais bien que dans 10 ans, on se souvienne, FF15, c'est celui qui a voulu être un triple A moderne. Quoi.
Qui a relancé la licence au goût du jour.
Enfin, l'histoire de relancer la licence, moi j'aime pas trop.
Bah, c'est... La licence,
pour le grand public, certainement.
Il a défriché l'open world pour FF.
Qui a refait la formule, la FF, au goût du jour. au standard actuel des AAA.
Ouais. C'est sûr que c'est un tournant pour la saga, je pense. C'est le premier open world, c'est le premier qui est vraiment ouvert à l'Occident. Et on le ressent vraiment dans le jeu. Hein.
C'est pas garanti qu'ils refassent des open world systématiquement. Non. Moi, je serais d'ailleurs très pas surpris en fait que pour le 16, ils reviennent à un truc, si 16 il y a, mais qu'ils reviennent à quelque chose de complètement différent.
C'est pas étonnant que pour un FF17 ou 18, allant très loin dans le futur, mais qu'ils refassent de l'open world. Ça, c'est leur premier essai.
Ouais, bien sûr. Après, est-ce que l'open world sera toujours ce qu'attendent les joueurs? Moi, je suis de plus en plus allergique à l'open world. Parce que ça,
est-ce que l'industrie sera toujours sur le fixé sur open world? C'est bien, c'est le
c'est
jeu.
C'est vrai que c'est un peu la tendance du moment.
On peut voir aussi dans les jeux Nintendo, par exemple le nouveau Zelda qui est en full open world, ou même le nouveau jeu Mario qui semble être assez.
Mais ça, c'est parce que les Japonais sont en train de rattraper leur retard et ils le font en faisant comme les Occidentaux. C'est pareil avec le prochain Dynasty Warriors aussi, ils ont annoncé on va faire un open world.
Ils le font plus mal quoi, que les Occidentaux. Parce que je pense que Tabata a voulu vraiment faire un jeu occidental et calquer ce qui marchait. Quoi.
Mine de rien, et c'est là qu'on retrouve l'aspect FF aussi, c'est certes un open world, mais qui dans son dernier tiers, deuxième moitié, se focalise sur l'histoire. Parce que open world, ok, mais on va pas tomber dans l'erreur de l'open world qui a du mal à délivrer une histoire. Alors il y a des jeux qui le font très bien, et Rockstar le fait assez bien d'ailleurs.
Finalement, parmi les critiques qu'on peut entendre dans le jeu, finalement, l'open world quand même noie une partie de la narration et du scénario.
Je pense pas parce que l'open world il est dans la première partie et la narration dans la première partie c'est alors il y a des trucs un peu étranges. Le roi est mort, faisons des selfies. On est d'accord, il y a des choses qui sont un peu étranges. Mais par contre, je pense pas parce que la première partie du jeu c'est découvre cet univers. On a un univers qui est hyper impressionnant, hyper important. On te lâche dedans, c'est guidé. Il y a quelques événements qui se passent, mais pour moi le vrai déclencheur c'est l'arrivée à Alticia et c'est à partir de là que tout va vraiment se déployer. Ouais.
Plus que le noyer le scénario, je dirais que ça le dilue plutôt en fait. Surtout c'est la façon dont tu y joues, parce que tu peux aussi bien attendre la fin avant de faire toutes les quêtes secondaires, mais tu peux très bien les faire tout de suite dès le début. Mm-hmm. Ça veut dire que tu auras les éléments du scénario vont être de plus en plus éloignés les uns des autres si tu choisis de jouer comme ça. Et ça malheureusement c'est quelque chose que tu peux pas éviter dans un open world, parce que le joueur s'il est libre de faire ce qu'il veut, et ben il peut faire ce qu'il veut, tout simplement.
Il y a deux façons de jouer au jeu. Hein. Oui. Moi j'ai fini le jeu deux fois. La première fois en ligne droite, donc je l'ai torché à 22h. Oui. Et la deuxième fois où j'ai essayé de faire toutes les quêtes annexes. J'ai abandonné au bout d'un moment parce que j'ai voulu refaire le combat final. Mais voilà, on peut très bien passer 25 heures à se focaliser que sur l'histoire et après prendre le temps d'aller chercher un camion à flageolet si on en a envie.
Justement, en parlant des quêtes annexes, votre avis, le jeu donc, est finalement un open world, donc il se devait d'avoir beaucoup de quêtes annexes. Mais parmi les critiques qu'on entend, c'est qu'elles sont assez répétitives. Mm-hmm. Tu partages cet avis ou bien...
Bah, c'est ce qu'on peut appeler un peu les quêtes FedEx, comme on dit. C'est-à-dire d'aller à un point A, un point B, faire des allers-retours, etc. à chaque fois. Mm-hmm. C'est un peu des quêtes de MMO, on peut dire. C'est un peu les mêmes quêtes qu'on a dans la FF14. Mm-hmm. Et après, ce qu'on peut reprocher aussi, c'est que les quêtes n'ont pas vraiment de scénario, ne sont pas vraiment liées au scénario. C'est vraiment des quêtes voilà, exclu du scénario, où il y a vraiment des petites choses à faire assez simples, ou des petites chasses, ou des petits combats, de la pêche, et voilà, c'est vraiment de l'amusement, de l'entertainement, du divertissement, quoi. C'est pas vraiment lié à l'histoire, mais après, c'est vrai qu'il y a énormément de contenu. C'est un jeu auquel on peut passer vraiment 100 heures avant d'arriver au combat de fin, et toujours s'amuser, parce que c'est toujours prenant d'enchaîner les quêtes, et d'un petit peu, voilà, on découvre aussi le monde.
Si on est perfectionniste, il y a énormément de choses à faire, je pense, parce que tout à l'heure, le jeu fait un peu combler tous ceux qui veulent beaucoup d'activités à faire.
Je pense qu'en fait l'erreur serait de vouloir enchaîner plusieurs quêtes annexes à la suite, d'en faire plus de 5, parce qu'en fait mine de rien d'une quête à l'autre on peut en accumuler plusieurs, mais on a quand même tout ce système de voyage en voiture qui peut être un peu lourd au bout d'un moment, et clairement après 4-5 quêtes annexes j'ai envie de continuer de faire une quête principale parce que je pense que c'est un peu du masochisme de vouloir
quand
en faire
même
trop.
Le problème des quêtes pour obtenir de l'argent, les contrats. Ouais. Là par contre, faire des allers-retours pour aller tuer des monstres.
Ouais, on aimerait pouvoir.
Et puis même d'un point de vue d'équilibrage, je crois que c'est un des premiers FF où je vois qu'il faut surtout faire des missions, réaliser des contrats pour avoir de l'expérience, gagner de l'argent. Et les monstres, non. Les monstres,
c'est
très
vrai
peu.
Que c'est un des moyens de l'expérience.
Alors que les monstres, on pourrait aller chercher le. Par exemple, avoir un bestiaire dans le menu, aller chercher tous les monstres de la carte et gagner de l'expérience et de l'argent avec ça. Mais en fait, on ne gagne pas grand chose, malheureusement.
Donc, dernière question pour clôturer cette première partie. à chacun, quel est par exemple votre plus gros regret vis-à-vis de ce jeu ? Du jeu, je parle pas du développement, du projet, je parle vraiment du jeu.
On va commencer par toi, Jérôme.
Mon plus gros regret, je pense, c'est la façon dont l'histoire est racontée. C'est la narration. Je pense qu'elle méritait mieux que ça. On sent qu'il y a des morceaux de scénario qui ont été mis en place par Nomura. Et ça ne va pas plus loin. Et quand on arrive à la fin du jeu, on se rend compte qu'il n'y a personne d'autre que Hardin. Que pendant toute l'histoire, ce qu'on nous a raconté, c'est... Donc, moi, j'ai eu le problème de la dilution du scénario parce que j'ai fait beaucoup de quêtes. Mais j'ai eu un vide global où je me suis dit mince, c'est déjà fini. Et j'ai eu l'impression de ne pas voir grand-chose au niveau scénaristique. Et peu de retournements, peu de choses à découvrir.
Aussi parce que ça ne dure que 20 heures.
Ça, ici, voilà, en quête principale, le jeu se boucle en 20 heures. Mm. Sachant qu'arrivant.
C'est une bonne preuve qu'il ne faut pas y jouer en bourrant non plus. Hein. Oui, c'est pas comme ça qu'il était conçu.
Mais du coup, moi, le plus gros écueil du jeu, comme je le partage aussi, c'est clairement sa narration. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on est en mode spoiler, hein, on est d'accord. Pour moi, je vais rien apprendre à personne, mais pour moi, le chapitre 13 est incompréhensible dans la façon dont il amène certaines réponses. Mm-hmm. Et moi, je suis passé à côté d'un élément fondamental dans mon premier run, qui est que le démon qui nous poursuit dans le chapitre 13, c'est l'empereur. Et c'est indiqué dans deux sous-titres. Il y a une fois où c'est dit à l'oral, mais...
On l'entend.
Ouais. C'est Ignis qui le dit après l'avoir vaincu.
Exactement, Ignis, et ouais.
Et après l'empereur parle en voix off.
Avant le combat, Noctis dit c'est ce qu'il reste de l'empereur. Voilà. Et à la fin, on entend l'empereur parler. On entend cette voix démoniaque parler et c'est sous-titré Iedolas. Mais voilà, sinon on passe à côté de cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il se termine comme ça?
Il y a aussi d'autres points vis-à-vis l'empereur des soldats Magitek, de l'origine de Prompto, ou de Ravus, de sa mort.
Mais justement, l'empereur et même l'empire en général, c'est censé être l'antagoniste principal. C'est ce qu'on nous a vendu dans King's Glaive.
Dans King's Glaive, dans le film, oui, bien sûr.
Exactement. Ouais. Dans King's Glaive, on se demandait vraiment comment il allait vaincre l'empire. Et finalement, dans le jeu, on se rend compte que l'empire, il s'est vaincu tout seul, que nous, on n'a rien fait. Donc, on a même pas croisé l'empereur, on n'a même pas croisé personne. Enfin,
c'est intelligent d'un point de vue.
D'une certaine manière, je trouve pas ça. Enfin, c'est vrai que c'est dommage, ça c'est évident que c'est dommage parce qu'on nous explique rien, qu'on comprend pas grand chose. J'ai trouvé ça assez marquant le chapitre 13, il m'a pas dérangé autant que toi. Évidemment, il était un peu long, ça c'est le truc. Mais t'arrives dans cette ville complètement vide, complètement morte, noire, plongée dans le noir où il y a rien. Je trouvais qu'en termes d'ambiance, c'était tout d'un coup, t'arrives dans une ville où tu te dis, finalement, c'est.
Moi j'ai bien aimé ce chapitre. Hein. Ouais. C'est vrai, ça m'a rappelé des vieux donjons, des anciens FF avant le 7. Ou par exemple la tour de Babel ou des cavernes, etc. Où c'est vraiment... c'est long, quoi. Il faut y aller.
Ouais, puis une tension, quoi.
Moi, ça me rappelait surtout...
Sauf que c'est plus simple. Mais il n'y a pas beaucoup de difficultés, malheureusement. Il y a plein d'endroits pour dormir et pour sauvegarder, tu sais pas trop pourquoi. Et tu comprends pas comment tu passes de la périphérie de la ville au centre de la ville. Avec tout le level design, en fait, tu comprends pas spécialement où tu es.
Et finalement, on n'est pas dans la ville, en fait. On est vraiment au centre de la ville, dans les juste
dans
en dessous
de
la forteresse volante, comme il l'appelle, même si on n'en a pas vraiment. Donc voilà. Mais moi, personnellement, c'est vrai que ce niveau m'a beaucoup fait penser à Final Fantasy VII, au niveau, par exemple, de la tour Shinra.
Oui, bien sûr. Ouais.
Voilà. Ouais. Toute l'ambiance un peu glauque qu'il y avait, je trouve ça très ressemblant.
Et au-delà des manques et des trous scénaristiques pour les dessins de certains personnages, moi, ça me révolte pas parce que je suis pas non plus au point de faire une manif, mais ce qui m'a énormément gêné, c'est d'avoir des trous scénaristiques où Gladiolus s'en va pendant une heure, il revient, il a une balafre, ok, ça sera le DLC de Gladiolus, on a compris. Ignis se retrouve aveugle. Alticia, ok, bon bah on imagine que ça sera dans le scénario. Alors, ajouter des DLC, pourquoi pas, mais si c'est pour amputer le scénario principal, là, moi, ça me pose vraiment problème.
Et en plus, ça semble forcé comme ajout.
Oui, Prompto, pareil, hein, d'ailleurs.
Un DLC par personnage, ça semble forcé. Mmh.
Ouais, bien sûr.
Totalement, mais il y a plein de choses qui sont forcées en fait.
Par contre, d'ailleurs, parenthèse, mais ce qui arrive à Ignis, je trouve que dans la relation avec les personnages, c'est hyper bien traité après.
Ouais, moi, je trouve que c'est beaucoup plus fort que ce qui arrive à Luna.
Oui.
Voilà, je trouve que personnellement, j'ai été vraiment attaché à ce personnage depuis un bon bout de temps. beaucoup plus que le personnage féminin principal.
Ouais. Parce qu'on passe 20 heures avec eux et qu'ils discutent entre eux en permanence.
Soyons clairs, la partie sur le train, ça recoupe ce que tu disais sur le truc, le point négatif principal, c'est effectivement la gestion en chapitre est cruelle pour cette partie-là du jeu, ouais. Parce que voilà, ça la découpe alors que ça n'a pas lieu d'être. Par contre, l'ambiance de cette partie-là est vraiment très réussie.
Ouais, c'est vraiment excellente.
Et la façon dont les personnages tout d'un coup sont... Enfin, Gladius en a marre de Zermand de Noctis, Pronto qui est vraiment l'un de mes personnages préférés. Pronto, il est vraiment remarquable dans cette partie-là parce que tu sens toute sa fragilité, il a envie de faire quelque chose mais il n'en est pas capable. Et le fait que...
Le fait que quand tu t'éloignes, on te rappelle à l'ordre.
Ça a vraiment en plus influencé sur le gameplay, le fait de perdre Ignis dans l'équipe et de le voir... Enfin, il était beaucoup moins utile que ce qu'il était auparavant, et même, c'est pas du tout, surtout au début. Lorsqu'il est la première mission où on est dans les mines, ouais. Ignis est beaucoup moins utile que ce que.
C'est presque un boulet, quoi.
C'est un boulet, les
gars. On doit lui tenir la main et tout.
D'ailleurs, moi j'ai toujours. J'ai toujours. Je crois qu'on nous donne le choix, est-ce qu'il continue avec nous ou pas. Alors j'ai toujours mis oui, je sais pas si ça impacte quelque chose.
Il vient quand même, d'accord.
C'est un faux choix.
J'ai toujours dit non.
Faux choix. Bon, bah ça peut être un problème aussi. On nous offre des choix et finalement, c'est pas un jeu à choix multiples, quoi.
Ah, ça change l'expérience.
Il y a une scène à choix multiples à Laetitia et finalement ça sert à rien à la fin, quoi.
Si, tu payes pas la douane. D'accord. Je l'ai fait la deuxième fois.
Non, mais quand tu parles à la chancelière, là, ah, la chancelière. Pendant des heures et des heures, et finalement.
J'étais hyper confiant, moi.
Tu es félicité d'avoir bien négocié, mais
il n'y a aucun changement de scénario.
Par contre, l'arrivée à Laetitia avec les douaniers, le choix que tu fais a un impact.
Bah oui, tu perds ton argent.
Voilà, la première fois, j'ai perdu la moitié de ma thune.
Moi, j'ai perdu tout mon argent. Ouais. J'étais fauché.
Ouais.
Mais ou sinon, avec le Léviathan, où donc, lorsqu'on arrive devant son œil,
oui.
Et qu'on a le choix de lui demander gentiment son pouvoir ou bien
d'insister
jusqu'à l'insulter, et ça influe. Après. C'est dommage que finalement ça influence pas tant que ça dans le combat parce que même s'il est dit dans une petite fenêtre comme quoi le Léviathan est devenu beaucoup plus puissant, mais finalement ça influence pas tant que ça. Mais après je trouvais que ce passage là
de toute façon le combat tu peux pas perdre donc que ça puissant encore.
Après finalement je trouvais que même si ils avaient pas lieu d'être, ils étaient quand même assez intéressants, ça apportait quelque chose de nouveau et de différent. Même lorsqu'on était à l'Estaloum ou qu'on devait se balader avec Iris, il y avait des choses, enfin ça portait un peu d'originalité à l'histoire. Mais donc on va terminer avec toi Arsène, ton plus grand regret pour Final Fantasy XV.
Ça regroupe un peu ce que vous avez dit, c'est surtout la narration, etc. Pour moi c'est vraiment un gâchis au niveau de son univers en général. Je pense vraiment que ça aurait vraiment pu faire un jeu, peut-être l'un des meilleurs Final Fantasy dans son univers, dans son monde, dans son background. Et dans le jeu, on trouve quasiment rien, quoi. Il y a vraiment très peu de choses expliquées, il y a vraiment très peu de... C'est vraiment pas du tout poussé, quoi. On voit vraiment qu'il y a il y a de la matière à faire, mais que dans le jeu, c'est effleuré. Et même au niveau des personnages, les personnages secondaires, on les voit quasiment pas. On n'arrive pas à s'attacher à eux. Donc pour moi, c'est vraiment un gâchis à ce niveau-là.
Faut écouter la radio, faut lire des magazines, faut écouter des PNJ qui parfois ont quelques conversations intéressantes, et il faut acheter le guide officiel qui regroupe toute la chronologie du jeu. On apprend des trucs complètement maboules dedans d'ailleurs.
Il y a des informations très bizarres, par exemple
le père
de Pronto.
Entre le background, les origines de certains personnages comme Pronto ou
le père de Pronto.
Le père de Pronto, littéralement, c'est la plus grosse révélation que.
Voilà,
et surtout, aussi, avec la. L'arbre généalogique des personnages, où tu vois qui est lié avec qui et de quelle manière, et tu as donc le père de Gladio et qui est toujours existant dans les scénarios, donc assez surprenant.
Les DLC, les amis.
Ça, c'est pour revenir à ce que tu disais, Arsène, effectivement, c'est un autre point vraiment sur lequel j'ai beaucoup de regrets, c'est le fait que dans tous les FF avant et surtout à partir du 10, il y avait un effort énorme à porter à l'univers, le background qui était derrière, mais c'était toujours traité de manière plus discrète mais présente dans le jeu. Dans FF12, il y avait le dossier qui permettait d'avoir plein d'informations. Dans le 13, c'était plus discret, mais c'était quand même là. Et là, dans le 15, c'est très difficile de trouver toutes les petites bases mythologiques qui permettent de retracer la cosmogonie du jeu, quoi. Ce qui vraiment, pour moi, fait beaucoup l'intérêt de tous les précédents FF.
Certaines infos sont dans les temps de chargement des débuts de chapitre.
Voilà. Même plus que ça, ça c'est pour la narration. D'ailleurs, je te parle vraiment de la genèse du monde, ce genre de détails. Il faut aller dans le tutoriel pour regarder les tableaux sur.
Oui, moi j'ai lu aucun temps de chargement parce qu'à chaque fois ça m'a spoilé les 10 premières minutes de la suite.
Donc voilà, cette première partie est finie.
J'ai un second regret quand même. D'un point de vue de la difficulté, on en a un petit peu parlé, ce jeu est facile.
Ouais.
Il n'y a pas de mise à niveau des ennemis. Alors je ne sais pas si l'open world est une contrainte technique pour ça. J'ai pas joué à The Witcher ou à d'autres jeux qui peuvent avoir à peu près la même structure. Mais par exemple, pour moi, le New Game Plus n'a aucun intérêt.
Il apporte rien.
Il apporte rien parce qu'on se retrouve dans un monde où tout est encore plus facile que dans la première run. Alors j'espère qu'ils vont revoir un peu ça. Je doute pas que l'ajout du New Game Plus, c'est juste une première pierre.
Je tiens à dire que même en faisant le jeu en ligne droite, le boss final...
Oui.
Et d'une facilité.
Il suffit d'avoir quelques potions, enfin quelques.
Voilà. Il y a une vidéo de quelqu'un qui l'a battu niveau 1, le boss de fin. De toute façon, ils ont toujours dit que le jeu était fait pour qu'on puisse battre les boss, même niveau 5 ou niveau 50. Si on joue bien, on peut se toucher.
J'ai eu beaucoup plus de mal contre Ravius que contre le boss final.
Oui, Ravius c'était.
Anormalement fort.
Ravius c'était compliqué, ouais.
Ah oui. Moi j'ai pas eu de mal du tout. Ah, mais c'est parce que je suis arrivé assez tardivement.
Moi j'ai vidé mon avantage.
Déjà un bon niveau.
J'ai vidé mon avantage pour
ça. Moi j'ai terminé le jeu dans la première partie en ligne droite où j'étais niveau 40. Et donc c'est vrai que.
Niveau 40, 45.
Ravius était compliqué.
Ah oui, moi j'étais niveau 60, 65, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça.
Donc voilà, cette première partie est finie. Merci. Et on revient tout de suite pour la deuxième partie. A plus! Nous revoilà, et nous revoilà encore YouTube Space pour la deuxième partie du débat, cette fois-ci qui sera centrée plus sur le développement du jeu. Et donc je vais commencer avec la toute première question qui est 10 ans d'attente, qu'est-ce qu'il en ressort de ce projet ? Donc c'est à toi Jérôme que je pose cette question, qu'est-ce qu'il en ressort pour toi de ces 10 ans d'attente ?
Donc là on va plutôt parler, j'imagine, de la communication avant le jeu.
Voilà.
Qu'est-ce qu'il en ressort du projet ? C'est une vaste question quand même.
C'est pour ça que
je pense qu'on en a quand même un petit peu répondu en partie. Entre ce qui avait été annoncé et le jeu final, il en ressort quand même un bon jeu. Il en ressort aussi, je pense, quelque part, il y a des choses qui ont été faites qui sont réussies. Au niveau, par exemple, de tout ce qui est l'univers de la map monde, de l'open world, c'est les promesses qui ont été faites à ce niveau-là. Je pense qu'elles ont été tenues. Par contre, de ce qu'il en ressort, entre les trailers et le jeu fini, il y a à de nombreuses reprises durant le jeu des checkpoints où on retrouve les images du trailer qui ont été comme ça montées dans le jeu pour dire on vous a promis de vous montrer ça, c'est dans le jeu, regardez. Et en fait ça colle pas. Par exemple quand on voit Luna se lever avec des soldats qui arrivent et qui débarque de nulle part, dans le jeu on ne le comprend pas. Mais ça vient d'un trailer, ils l'ont montré, c'est là. Quand on voit les quatre héros retourner dans Insomnia, à la capitale, on voit le plan où ils sont tous les quatre et ils reviennent. On voit aussi le plan où Noctis est tout seul, il repart. On voit le combat contre le Behemoth, tout ça, ça a été montré dans les trailers. Et c'est comme s'ils montraient des checkpoints, ils forçaient en fait le jeu à coller ce qu'ils avaient montré avant. Sauf que, évidemment, il y a certains points qui semblent être... Il semble y avoir un entonnoir en fait, ils sont obligés de rentrer dans ces checkpoints pour que ça colle à ce qu'ils avaient montré auparavant. Sauf qu'il y a des choses qui ont changé.
Il y a pas mal aussi de promesses des trailers qui ont été... enlevé du jeu finalement.
Oui, sur internet il y a plusieurs compilations de trailers.
Ouais, il y a beaucoup de séquences de trailers qui étaient assez marquantes dans les trailers et qui nous donnaient envie et que dans le jeu on ne retrouve plus du tout.
Et même de la même façon, les trailers semblaient, pour ces scènes-là qui sont marquées dans le jeu, semblaient plus prenants, ouais. Plus marquants dans les trailers que dans le jeu lui-même.
Après, il y a deux raisons et deux explications à ça. C'est que déjà, c'est pas le même, enfin c'est pas le même jeu, c'est la même base, mais comme on le sait tous, il y a eu un deuxième, enfin même plusieurs développements. Il y a un réalisateur qui est différent aussi, et il y a surtout 10 ans de développement. Et je pense que n'importe quel jeu, que ce soit FF ou pas, n'importe quel jeu développé pendant 10 ans, il y aura ce genre de problème-là, de on a montré quelque chose en 2006, évidemment que le game design, que la narration, que les ambitions du jeu ont évolué en 10 ans, et donc il y a des choses qu'on ne retrouve pas. Moi, ce que je pardonne un peu moins, c'est des choses qui ont été montrées un peu plus récemment, le trailer Down, par exemple, qui était pas mal, qui montrait un peu la tension entre Régis et Noctis, et finalement c'est quelque chose qu'on retrouve pas du tout parce que Régis est pas du tout présent dans le jeu. Alors c'était peut-être un trailer qui était là pour montrer une ambiance, pour montrer un peu une direction, mais personnellement je pensais pouvoir retrouver des séquences comme ça dans le jeu, et finalement on les retrouve à aucun moment. C'est peut-être même dans le film, peut-être qu'on se rapproche un peu plus de cette relation, quoique Noctis on le voit pas du tout non plus dans le film. Donc c'est peut-être ça un peu le problème, le premier problème en fait auquel on est confronté. Et je pense que sur Finaland d'ailleurs ça a été bien montré, tout ce qu'on retrouve pas effectivement, on peut faire une compilation de 15 minutes de vidéo de choses qu'on a vues dans les trailers qu'on retrouve pas dans le jeu.
Ouais, je pense que les trailers de Down, c'était aussi pour, comme tu dis, pour illustrer un petit peu la relation père-fils qui devait être finalement la base du jeu, ouais. Et qu'on ne trouve pas dans le jeu.
Peut-être un truc fait un peu tardivement, on n'a pas du tout intégré ça dans le jeu, on va en faire un trailer d'ambiance.
Mais finalement, c'est quand même assez étonnant aussi, parce qu'il y a des trailers très récents. On n'a pas que des trailers qui datent d'il y a 10 ans, mais effectivement, si on compare avec des trailers qui datent d'il y a 10 ans...
Même celui d'un cover,
il y a des choses qui ont été enlevées, mais il y a des choses qui, c'est sûr, ne sont pas présents, mais des choses qui sont assez récentes, mais quand même le trailer d'Uncovered qui finalement
contient des scènes qui étaient très bien. Ouais, c'est un trailer qui était très bien mis en scène
et pour cause, c'est pour moi le. Enfin, d'ailleurs, Tabata l'avait dit, cet événement-là, Uncovered, c'est le début de la communication officielle, finale du jeu tel qu'il sera. Je pense qu'il a parlé un peu vite. C'est pas la première fois, mais il a parlé un peu vite à ce moment-là.
Apparemment, c'était la Gamescom, mais je suis pas sûr.
Ouais.
Précisément. Il y a eu plusieurs fois que ça a commencé, justement. Et c'est ça qui a brouillé le message pour beaucoup de gens.
Moi, c'est pas ce que j'avais dit.
Dawn aurait été un très bon point de départ si le jeu était dévoilé à cette occasion, mais c'est pas le cas. Ils pouvaient pas faire table rase de tout ce qui était passé avant. Les gens l'ont pas compris, ça. C'est pour ça que ça a pas marché, forcément. Bah,
à la Gamescom, il y a aussi l'annonce du report du jeu, donc je pense que c'était peut-être pas le bon moment pour commencer la communication.
Ah, on parle de la Gamescom de 2015.
Non, on parle de la Gamescom de 2015, où ils avaient annoncé Dawn, qui était officiellement donc le lancement de la communication. Public d'FF15.
Oui.
Et c'est ce qu'il avait annoncé.
Ils se sont pas bien fait comprendre sur ce qu'ils voulaient, en fait, ce qu'ils voulaient montrer. Les gens avaient pensé que ça allait être le début de. Parce qu'on a eu Uncovered en fait. En fait, c'était pas du tout ça qu'il voulait dire, lui.
Mais finalement, les 10 ans d'FF15, c'est pas justement ça. C'est ce problème de compréhension entre les fans et les développeurs.
Alors là, je crois que tu as mis le doigt sur le problème. De toute façon, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est possible que le jeu aurait pu ne jamais exister s'il avait pas été dévoilé en 2006. Il était dévoilé en 2006 alors qu'il n'avait pas du tout commencé son développement. Au final, il a commencé le développement concret pour le FF15 définitif en 2014. Pendant toutes les années avant, il y a eu plusieurs essais pour faire le développement, ça n'a jamais marché. On se dit ils auraient dû abandonner en cours de route à un moment. Ils se sont rendus compte, c'est pas possible, on ne peut pas faire ce jeu. Mais il était dévoilé.
Mais donc Tabata, il serait donc le sauveur de Final Fantasy XV ?
C'est le sauveur parce qu'il a réussi à le sortir. Mais entre-temps, on peut considérer que c'est le bourreau, parce que c'est lui qui a dû trancher dans le lard pour dire « ça, on peut pas le garder parce qu'on peut pas, on n'a pas le temps, voilà, pas
moyen. » Il a une position très difficile, hein. Je pense que c'est très difficile de l'aduler et de le détester. Moi, je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que je reconnais qu'il a eu le mérite. Et encore une fois, parce que c'est quelqu'un qui est très sympathique et qui est hyper ouvert, je me rappelle encore d'une interview, alors c'était pour Type Zero HD, où à la fin de l'interview, le mec, enfin c'est quand même pour lui qu'on est là, et on est toujours un peu impressionné, mine de rien, d'interview. Les créateurs des jeux sur lesquels on écrit, et à la fin de l'interview il me dit bon, c'est quoi votre vision de Final Fantasy, et c'était l'interview c'est un peu retourné. Donc en ça il est assez attachant. Après il y a des choses qui sont difficiles à accepter aussi, dont dans les choix qu'il a pu faire, parce que la vision de Nomura est peut-être pas intacte par rapport à ce qui était promis dans les premières.
N'allez certainement pas quand on part du principe que Nomura est très 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 pointilleux.
Tabata, il a refilé le projet quasiment impossible et il a fait ce qu'il a pu finalement.
C'est comme s'il avait eu des brouillons et qu'il s'était appuyé dessus. Et au final, on a les brouillons dans le jeu, mais on n'a pas beaucoup d'approfondissement de ce qu'il y a.
Ce qu'il avait dit à un moment, c'était assez marquant. Je crois que c'était, c'était en 2015 qu'il avait dû dire ça. Donc on avait déjà comme pas mal vu de choses du jeu. Il avait dit, quand on a commencé à réviser les choses qu'on allait prendre et garder dans le jeu et les autres qu'on allait jeter, il a dit certains points, on aurait beau essayer autant que possible de les intégrer, ça n'aurait pas marché, donc il les a abandonnés. Forcément, là-dedans, il y avait des points qui étaient des choses déjà dévoilées. Et c'est ça, le gros problème, c'est qu'il fallait revenir sur des choses déjà dévoilées.
Okay. Je pense qu'il y a l'esprit aussi très japonais de ne pas vouloir froisser, de vouloir faire les choses, de ne pas revenir peut-être sur des décisions qu'on a faites. Je pense que c'est la première fois que Square Enix s'accuse autant de changements de direction dans un même jeu. Ils ont parfois peut-être un peu du mal aussi à accepter ça, alors que plein de développeurs le font. Les développeurs occidentaux qui mentent ouvertement dans leur bande-annonce, mais on le voit rien que par les downgrades graphiques, enfin rien que ça, c'est déjà un mensonge. Je pense que parce que c'est Square Enix, nous, on le vit peut-être un peu moins bien, qu'ils nous ont habitués à un certain standard de qualité, de tenir leurs promesses.
Mais c'est parce que il y a 10 ans, ils ont été prétentieux. Ils ont dit, vous allez voir sur PS3, ça va être comme avant.
Jamais.
Pas juste Nomura, tous. Ouais. Le projet Fabula Nova Crystallis, ils l'ont annoncé comme quelque chose de très ambitieux et de très très copieux. Et à l'époque, ça pouvait sembler crédible, mais on se doutait pas qu'ils allaient rencontrer tant que ça de problèmes technologiques derrière. Et c'est à cause de ça qu'on en est là aujourd'hui. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser ce qu'ils avaient envie de faire à l'époque, parce que tout d'un coup, ils se sont trouvés devant un mur technologique qui les a empêchés de concrétiser leurs ambitions.
Une chose est sûre, et on en parlait d'ailleurs avec Idir de Square Enix, heureusement que Versus 13 n'est pas sorti tel qu'il nous a été montré dans les dernières bandes annonces. Je ne sais pas si vous rappelez cette bande annonce, on voyait pour la première fois l'open world, justement, voilà, en 2011. Et en fait, en la revoyant, parce que évidemment, je pense qu'on a tous fait l'exercice de revoir un peu les trailers, heureusement, parce que c'était pas très très joli.
Quoi. C'était même un beau point de départ, cette bande annonce, c'était l'une des plus marquantes.
Ça donnait une intention.
C'était un point de départ intéressant, mais pourquoi est-ce qu'ils ont annulé complètement finalement Versus sur PS3 et passé sur PS4, c'est que la dernière version alpha qu'ils ont eu de Versus sur PS3, c'est en voyant ça que la hiérarchie de Square a dit bon, si vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez faire et ça se voyait manifestement, alors ils leur ont dit ok, ben vous passez à la génération suivante et voilà. Donc clairement, ce Versus sur PS3 ne pouvait pas être développé en tant que tel. Ils avaient fait beaucoup de concessions. Tout d'un coup, ils se sont dit bon, tout ce qui ne pourra pas être représenté en temps réel, on va faire des cinématiques précalculées. Ils étaient en train de faire un tiers des cinématiques en précalculé. C'était jamais vu dans un FF. Donc, c'était bien la preuve qu'ils n'avaient pas moyen de faire autre chose.
Ça aurait peut-être pris encore plus de temps que si. Enfin voilà, on sait pas, on ne saura jamais. Hein,
c'était la preuve qu'ils étaient en train de chercher des moyens de outrepasser les difficultés d'une manière ou d'une autre.
Ce qu'ils ont développé pour Anis Philosophy après, ça leur permettait de faire ça totalement.
Oui. Oui. Donc finalement, Tabata, qu'est-ce qu'il a fait de bien et de mal au niveau du projet depuis l'annonce de Final Fantasy XV, pas depuis son arrivée officielle en tant que directeur?
Tu veux dire en tant que réalisateur?
En tant que réalisateur.
Tu veux dire en tant que communication du jeu ou en tant que chef du développement?
De manière un peu de tout. Sur la communication, on en reviendra un peu après, mais...
En tant que chef du développement du jeu, à mon avis, il a réussi à battre des barrières très japonaises. Ouais. Et là, il a beaucoup expliqué ce qu'il avait fait. Il a complètement rabattu la hiérarchie du jeu, du développement. Et ça, à mon avis, le jeu n'en serait pas arrivé là où il en est actuellement s'il n'avait pas commencé par faire ça. Parce que je pense qu'il y avait beaucoup de barrières très japonaises, et Julien Mercieron les expliquait dans sa masterclass, oui. C'était très intéressant, il disait les Japonais ils détestent que les autres touchent à ce qu'ils ont créé en développement de jeu. S'ils créent quelque chose, ils veulent pas qu'un tel à l'autre bout de l'open space, il commence à retoucher ce qu'il veut dessus. Et Tabata, il a dit on peut pas avancer comme ça, c'est pas possible. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Versus ne pouvait pas se concrétiser, parce que les programmeurs dans leur coin voulaient pas faire ce genre de concessions.
Ils sont conservateurs, hein. Il a peut-être un peu revu un peu la façon complète. Enfin, il a revu complètement la façon de travailler sur le projet avec les équipes, à mon avis. Alors, je pense que c'est au prix. Enfin, à mon avis, dans les équipes de Square Enix, il y a des personnes qui ont dû en avoir plus cassé. J'ai un contact qui travaille dans la division produits dérivés de FF15, et lui-même m'a dit on n'en peut plus de FF15, on a envie qu'il sorte, et et travaillait sur les produits dérivés. Donc j'ose même pas imaginer les personnes qui travaillaient sur le jeu. De ce qu'on m'a dit, il y a des dortoirs qui étaient intégrés, enfin qui étaient dans les derniers mois de développement dans les studios. Les gens passaient 20 heures par jour. Donc c'est un développement qui s'est fait dans la douleur. Je pense que il y a dû y avoir des tensions à mon avis.
Clairement. Même tu vois, le simple fait au moment où c'est passé de Versus 13 sur PS3 à FF15 sur PS4, ils expliquaient ça dans une interview où Nozue, qui est le réalisateur cinématique, il expliquait que l'équipe qui était en train de travailler sur le jeu, elle était exténuée. Ça faisait des années déjà qu'elle était en train de travailler sur le jeu. Ouais. Il ne pouvait pas continuer s'il n'y avait pas une profonde remise en question. C'est à ce moment-là qu'il y a eu l'équipe de Type-Zero qui est venue s'intégrer, l'équipe de Visual Works aussi a commencé à travailler avec eux. Sinon, je pense que le jeu, il aurait fini vraiment par être annulé, complètement annulé.
Et Tabata a réussi à coordonner toutes ces équipes-là, parce que c'est pareil sur Kingsglaive, même si Tabata n'est pas directement sur la supervision du film, il y a un nombre incalculable de studios qui ont travaillé dessus. Il y a eu des studios tiers qui ont travaillé aussi sur le développement du jeu, qui les ont assistés. Déjà, ça c'était très japonais aussi de vouloir tout faire tout seul. Accepter que des studios, parfois même occidentaux, travaillent sur un projet japonais Square Enix.
Mais ça, ils avaient ramené les équipes d'Avalanche,
oui, exactement.
Développé ça, Just Cause 3.
Entre autres, ça, ils ont juste fait ça en termes de conseils technologiques. Hein. Ils ne sont pas venus développer quelque chose.
Voilà, hein. Mais ils ont quand même, ils ont quand même accepté l'arrivée de studios occidentaux au sein de leurs équipes. C'est non, un bien grand mot, mais pour leur apporter une aide.
En tout cas, oui. Ils ont pris la conscience que l'outsourcing pouvait vraiment les aider à terminer le jeu. Et par exemple, la dernière partie du jeu, toute la partie en train, elle a été principalement développée par XPEC, le studio taïwanais qu'ils ont présenté, ils avaient présenté quand ils étaient allés au Taipei Game Show. Donc, clairement, Tabata l'avait expliqué ça aussi, il avait dit en interne, on ne veut pas faire une équipe de 2000 personnes comme Ubisoft sur l'Assassin's Creed et autres. On voulait rester à taille humaine. Bon, taille humaine, bien sûr, ça reste 300 à 400 personnes, c'est quand même énormément de monde. Et c'est aussi la raison pour laquelle il était obligé d'aller toquer à la porte de studios externes, parce que sinon, ils ne pouvaient pas faire un FF tel que celui-là avec 400 personnes seulement.
Finalement, il aurait peut-être pas fallu augmenter le nombre d'effectifs.
Je ne sais pas si augmenter le nombre d'effectifs suffit à permettre que le jeu soudain soit plus complet. Parce que les erreurs de FF15 qu'on a notées, les problèmes qu'on a notés, sont principalement des problèmes de game design et de conception, de scénarisation. Évidemment, ça aurait été plus facile pour eux s'ils avaient été plus de monde pour développer un jeu plus grand, mais au bout d'un moment, les principaux défauts qu'on a notés sont des défauts de conception, de la façon dont le jeu a été imaginé. Je pense pas que s'ils avaient été 1000 en interne, ça ait changé grand-chose.
Mais Tabata, c'est donc qui a effectivement reformé un peu la hiérarchie japonaise, enfin la politique de développement au sein de Square Enix. Il n'a pas fait que du bien, d'après vous. Qu'est-ce qu'il aurait fait de mal
Moi, je pense que c'était à lui de dire là c'est de la merde quand ergonomiquement ça va pas. C'était à lui de serrer les vis.
Après, la touche croix.
Pas forcément. Par exemple, un truc qu'on voit depuis la démo, c'est pour sprinter, on appuie sur L3. C'est super bizarre. On a le mélange, la touche croix, sauter. C'est super bizarre. Et après, on arrive, on prend un chocobo. Et là, on a les bonnes touches. Mm-hmm. Pourquoi les touches sont différentes?
On peut sprinter avec rond.
Ouais, tu peux. Ouais. Ouais. Tu peux faire avec rond aussi, mais c'est.
Mais ça, c'est plus difficile. C'est des détails qui normalement sont décelés très vite dans les playtests et on a. Enfin, je sais pertinemment que le jeu a été testé et qu'il y a eu des phases de QA, comme on appelle ça, mais d'assurance qualité. Merci. Mais on a l'impression qu'il y a des choses évidentes qui n'ont pas été signalées et qui se sont attachées peut-être à des choses un peu plus profondes.
C'est difficile de faire de l'assurance qualité quand même pour un jeu qui a un patch qui en day one, qui rajoute des éléments qui a été développé, je sais pas, il y a pas longtemps avant la sortie du jeu. Quoi.
Des choses intégrées le jour J, on intègre des cinématiques de Kingsglaive dans le jeu. Des extraits de 10 secondes sans doublage parce qu'on n'a peut-être pas l'autorisation de les avoir. C'est assez étrange. En plus, je pense que.
Personnellement, j'ai trouvé que. Enfin, j'ai fait le jeu avant la mise à jour et j'ai trouvé que l'ajout des passages de King's Live nuait dans certaines
cinématiques. Ça n'apporte rien. Et en plus, ça casse peut-être même la direction artistique. C'est-à-dire qu'on a du Kingsglaive, on retourne dans le jeu où, mine de rien, les personnages entre le film et le jeu ont des traitements visuels différents. On a Omen qui vient s'intégrer à un moment du jeu pendant un rêve, on sait pas, pareil, la direction artistique est complètement différente, tout ça n'était pas nécessaire. Ce qui était nécessaire, c'était de faire un chapitre 1 qui peut-être se passe pendant Kingsglaive, qui se passe de ce côté-là. Pareil, je suis convaincu que c'est une remarque qui a été faite 1000 fois déjà, donc je suis convaincu qu'il y aura un DLC, peut-être, ou des contenus qui vont être ajoutés sur cette partie-là. Moi, je serais ravi, hein, d'ailleurs, de pouvoir parler un peu de Régis dans le jeu. Et ça, c'est des choses, il le savait. Il le savait pertinemment que ça n'allait pas. Sinon, il n'y aurait pas eu ce patch-là.
Le truc avec Tabata, c'est qu'il est très différent en tant que réalisateur. Il est plus un chef d'équipe pour motiver son équipe qu'un réalisateur qui a une vision et une vraie prescience de son projet. Ça, c'est la grande différence qu'il y a avec Nomura. Nomura, lui, c'est un pointilleux. Il aurait jamais laissé passer des détails. Il aurait pinaillé sur des détails jusqu'au dernier moment, en fait.
Surtout, c'est pas son projet à Tabata. Il y a aussi ça, je pense, oui, que c'est très difficile de donner une direction quand déjà on reprend un flambeau.
Certes, mais même, je pense que volontairement, il a dit, mon équipe, je vais vous laisser faire plein de choses, on va créer des petits ateliers, vous allez inventer des choses de votre coin et je vais pas... Enfin, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait juste remonter à lui si jamais il y avait un problème pour que lui il tranche et dise ok, bon, ça c'est ça, et si t'es pas content, tu te tais. Bon, je dis, ça fait un peu violent quand je dis comme ça, mais c'est une discipline qui s'était donnée. Je n'ai pas chipoté parce que ça pouvait retarder le projet. Après, voilà, c'est ça la question, c'est est-ce que le fait qu'il était juste chef d'équipe, ça n'a pas provoqué un manque de vision globale?
Mais c'est pour ça qu'il posait, à la fin d'une interview, qu'il vous pose la question. C'est quoi votre vision de Final Fantasy?
Bah, je pense que
il est paumé, le monsieur.
Je pense que Tabata, il a aussi une vision très marketing, commerciale.
Très communication.
Il est plus dans cet axe-là, je pense, et il a vraiment voulu un petit peu tester les gens, savoir à quoi ils jouent, ce qu'ils espèrent voir dans le jeu, etc. Et même à moi, il m'a aussi posé la question de quel genre de jeu je jouais, qu'est-ce que j'aimerais voir dans FF, etc. Il a vraiment essayé de sonder tout le monde pour savoir comment il pouvait faire évoluer FF, en fait.
D'ailleurs, la communication qui est censée être gérée plus ou moins par Ofuji, si je dis pas de bêtises, ouais. Et en fait, c'est plutôt Tabata qui a pris la parole la plupart du temps.
Hein. Complètement.
D'ailleurs, je me souviens, à la Japan Expo, Ofuji nous demandait en fin d'interview quel trailer souhaiteriez-vous pour la Gamescom.
Ouais.
Donc,
non mais ça montre bien quand même qu'au-delà de vouloir tisser des liens avec les personnes qui vous interviewent, là c'était pas des questions innocentes quoi.
Oui, voilà,
très clairement.
Mais donc finalement, on parlait de la communication, mais finalement, qu'est-ce que vous avez à dire sur la communication du jeu depuis FF15?
On n'en peut plus.
On n'en peut plus finalement, mais
agressive. Trop c'est trop.
Square Enix a pris le format d'une communication transparente. ATR, plusieurs ATR, plusieurs passages, interviews et tout. Est-ce que...
ATR, c'était un bon format, je crois.
Est-ce que ça a tué le jeu ou ça a été le format nécessaire pour pouvoir relancer l'intérêt pour Final Fantasy XV?
Là encore, on reprend ce qui marche. C'est-à-dire que ça a été fait pour Final Fantasy XIV.
Ouais,
et on essaye de voir si... Ouais. C'était exactement le même format que pour FF14. Oui. Ça semblait fonctionner avec ce producteur-là, avec Naoki Yoshida. Il a tenté de faire pareil. Mais je pense pas que ça dessert le jeu, c'est-à-dire ceux qui veulent en savoir plus, suivre ces lives.
C'est pas les ATR qui posent problème,
les
ATR ça concerne une minorité,
bien sûr.
Après, ça marche très bien sur FF14, une émission, une lettre live, parce que c'est un MMO qui a énormément de choses à montrer. Il pourrait passer 10 minutes à expliquer le nouveau donjon en mode expert, ce que ça va apporter. Moi, ça me parle pas du tout parce que je joue pas à FF14. FF15, à partir du moment où il commence à prendre la parole sur le jeu, comme c'est un jeu solo, avec une trame scénaristique assez importante, bah évidemment, il révèle beaucoup plus d'informations. Alors nous, la vraie difficulté, c'est que comme on est notre rôle, enfin on n'a pas de rôle d'ailleurs, on n'a pas de mission, on fait ce qu'on veut, c'est pas notre boulot, mais on s'est donné pour mission d'essayer de raconter un peu tout ce qui se dit autour du jeu, et tu l'expliques très bien dans ton dernier article, c'est à partir du moment, à quel moment est-ce qu'on dit ça j'en parle, ça j'en parle pas. Et là, c'est un peu ça le problème dans notre rôle aussi à nous. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un article sur les nouvelles invocations ont été révélées, mais on sait qu'il y aura que quelques invocations dans le jeu, est-ce que c'est pas trop en dire?
Nous, on s'est fait énormément attaquer sur les réseaux sociaux par rapport aux spoilers dans les trailers, alors qu'on faisait que relayer ce que Square Enix nous donnait finalement, et on se faisait attaquer, vous spoilez le jeu, vous en montrez trop, mais est-ce que le jeu, peut-être les trailers l'ont trop montré, est-ce qu'on devait montrer ça ou pas? Après, on fait que montrer ce que Square Enix veut nous donner.
Si tu fais l'impasse sur une information, systématiquement, on a des messages qui nous demandent pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé.
Exactement, donc c'est paradoxal.
D'ailleurs, en parlant des trailers, Square Enix, ou de manière générale le Japon, ont une conception des trailers ou des spoils différentes de ce qu'on peut avoir en Occident. Et est-ce que vous pensez que Final Fantasy XV a réussi à spoiler assez peu par rapport à d'autres productions japonaises. Ils ont réussi à escalader à quelque chose de plus occidental. Ou non, ils ont
failli. Moi j'étais scandalisé en terminant le jeu. En terminant le jeu, en voyant qu'il y a une des séquences du dernier chapitre, il y en a même plusieurs d'ailleurs, qui étaient dans les bandes annonces. Le chapitre 0, par exemple, pour moi, il ne fallait pas le montrer avant la sortie du jeu. C'est tout bête, mais. Déjà pour l'intégration du chapitre 0 au début du jeu, je me suis posé la question, c'était très discutable voilà ce qui allait c'était se passer clairement dans la dernière séquence. Pour moi, c'était absolument pas nécessaire. Alors, ils ont voulu montrer des invocations, par exemple. Oui, il y aura telle invocation. Oui, mais bon, cette invocation, elle est à la fin du jeu, donc c'était peut-être pas nécessaire de le montrer. Voilà, donc je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être évitées. Après, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on a ce débat. Déjà pour Revenant Wings, le FF12 spin-off sur DS, pareil, ils avaient
90% de l'histoire avait été révélée.
Exactement.
C'est vrai que la saga FF13, ils ont aussi beaucoup trop montré.
Ça joue aussi sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de contenu. Enfin, le jeu est assez vide scénaristiquement par rapport aux autres FF plus courts. Moins condensé. Donc, ce qui fait que les trailers se tournent vite autour du pot, c'est ce qu'il y a été une grosse critique qu'il y avait au début de la communication, comme quoi la communication tournait uniquement autour du Sky et tout. À partir du moment où ça commençait un an après où ça commençait à décoller, là finalement on se rend compte que tout est révélé.
Pour moi, les trailers les plus efficaces, c'est World of Wonders, ça s'appelle, où c'est juste des décors. Mm-hmm. C'est 3 minutes de décors, c'est super beau, ça montre que le moteur il en a dans le vide.
C'est des décors qu'on ne trouve pas dans le jeu aussi, la plupart.
C'est vrai. mais pour moi, ça montrait, ça disait déjà beaucoup de choses en fait. Mm-hmm. Ça montrait un peu le. Moi, je suis le genre de joueur à parfois me balader dans un décor pendant une heure juste parce que c'est beau. Et ces trailers-là me donnaient plus envie que le trailer où on voit telle et telle invocation.
Il ne pouvait pas y avoir que des trailers chasse et pêche.
Bien sûr. Bien sûr.
Il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y avait une énorme demande pour avoir toujours plus d'infos. Ouais. Ce que Tabata disait, à l'appareil Games Week, on était là. J'ai pu lui dire, je lui ai dit, c'était à ce moment-là où on était en plein, on nageait dans les spoilers officiels. J'ai dit, au bout d'un moment, ça suffit. Le seul truc que j'ai eu envie de lui dire, c'est stop. Bon, je ne savais pas que quelques jours après, il y aurait la démo japonaise dans laquelle il y a un trailer qui... c'est fini. Et il me dit, oui, mais il faut contenter tout le monde. Il faut contenter d'un côté ceux qui, comme vous, attendent depuis Versus 13. J'ai bien compris que vous ne vouliez plus en voir, c'est fini, vous attendez la sortie. Et on a aussi plein de monde qui sont des nouveaux venus, qui s'intéressent au jeu depuis qu'il a été redévoilé en tant qu'FF15. Et ceux-là, ils en demandent toujours plus. Et on ne peut pas laisser poireauter. Moi, j'aurais tendance à dire que si, on peut les laisser poireauter. S'ils sont convaincus que le jeu va être bien, s'ils s'y intéressent, ils vont forcément à un moment ou à un autre.
Une fois, s'ils avaient été son produit, il aurait eu cette volonté-là de ne pas montrer plus.
C'est par rapport à une comparaison des trailers de Nomura que Versus 13, qui étaient eux assez grandioses finalement. Malgré tout, il y avait quelque chose d'assez théâtrisé, impactant et grandiose dedans.
Oui, mais dans la mise en scène,
ils étaient certainement tout aussi mensongers. On n'aurait jamais vu le jeu sous cette forme-là.
C'est assez suggestif parce que ça disait pas grand-chose sur l'univers.
Effectivement, toute la comparaison avec des trailers qui font rêver plusieurs joueurs, alors que les trailers de Tabata ou de Final Fantasy XV étaient plus sobres, finalement plus modestes. Mm-hmm.
Après, ils partaient en tous les sens aussi.
Que les gens demandaient plus, en fait. Est-ce qu'ils demandaient meilleur?
Moi,
j'aimerais voir un peu de ça.
Je reste convaincu quand même que 10 ans plus tard, c'est pas la même époque. On a les réseaux sociaux déjà, il y a les réseaux sociaux où l'information se partage super vite. On est dans un monde où il y a des dizaines de jeux qui sortent chaque semaine. Donc, faut sortir du lot, faut montrer. Faut donner envie aussi. Et je pense que c'est plus compliqué aujourd'hui de faire la promo de son jeu. Quand à côté il y a des Witcher, il y a des. Quand on voit que si on veut du RPG japonais aujourd'hui, on a quand même pas mal de choix. Je pense qu'il y a cette difficulté là aussi de devoir être dans la surenchère parce que la concurrence est assez rude.
Tout le monde se dit mon Dieu, il faut qu'on ait le GOTY, c'est le plus important.
Il y a une manière aussi de se rattraper de plus de 6 ans sans aucune nouvelle, où les fans étaient vraiment à cran sur le jeu et du coup on a eu l'overdose sur la fin parce qu'ils voulaient vraiment montrer ce qu'ils avaient vraiment développé pour de vrai quoi. Et du vrai contenu.
Mais ils ont trop fait. Enfin, pour moi, l'événement Uncovered, alors vous y êtes allé. installé, donc moi j'ai pas eu l'occasion de pouvoir m'y rendre, donc j'imagine que pour vous c'était un moment qui était assez grandiose. Après moi je l'ai vécu très confortablement dans mon canapé et c'était tout aussi bien, parce que je pouvais écrire dessus du coup, mais est-ce que c'était pas too much de faire, surtout quand on voit comment ça s'est terminé, que la date finalement
c'était un show immense, ça c'est sûr.
Voilà, c'est un grand show, ça a
coûté, c'est ça, on, a dit, on en est là, on en est à... Il faut convaincre les gens que le jeu va être exceptionnel avant la sortie. Et c'est comme ça avec absolument tout. Ça s'est passé avec tous les blockbusters des dernières années. Le premier qui me vient en tête, c'est Destiny. Activision a absolument forcé pour que tout le monde soit convaincu que Destiny va être la prochaine grande évolution du jeu vidéo. Il est sorti, il est très incomplet. Les gens se sont plaints parce que ce n'était pas du tout ce qu'on leur avait vendu. Maintenant, c'est le grand risque, c'est que le marketing en roue libre va vouloir nous vendre quelque chose que les développeurs eux-mêmes ne sont pas certains de pouvoir nous livrer.
Ouais.
Donc on en est à cette étape-là, on en est à cette étape de se dire à quel point on va se laisser intoxiquer par un marketing qui veut nous vendre quelque chose qu'on ne peut pas juger en l'état. Et si les gens rentrent dans le train de la hype, hein, si je puis dire, c'est normal si on commence à leur vendre des choses qui sont exceptionnelles, c'est normal qu'évidemment ils s'impatientent.
Mais donc maintenant j'aurais une autre question vis-à-vis des DLC. Tout à l'heure on a parlé des DLC épisodiques de Gladio, Ignis et Pronto, mais il n'y aura pas que ça comme DLC, il y a été annoncé un mode multijoueur. Vous, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous pensez du mode multijoueur, Jérôme par exemple, pour commencer? Tu te vois jouer avec tes amis pendant à Final Fantasy XV?
C'est étrange.
je sais pas. Je sais pas. Pour les combats, ça peut coller. Pour les combats. Après, oui, pour parcourir le monde, c'est vraiment, comme c'est un point fort du jeu, ça peut être bien. Faire des courses de chocobo, peut-être.
L'intérêt vraiment du multijoueur, enfin, de mode multi est
peut-être. Tout à l'heure, on disait que ça ressemblait à un MMO offline. Ouais. Finalement, ils sont rentrés dedans, c'est devenu un vrai MMO.
Je pense que c'est pas vraiment une appellation multijoueur, je pense qu'ils veulent plutôt donner une dimension online au jeu, mm-hmm. ce qui leur permettra d'ajouter des événements, comme on le disait dans la première partie.
Chocobo à Alticia.
Exactement, ce qui sera le premier événement à durée limitée. Donc, mm-hmm. ça, par contre, ça pose un vrai problème pour la personne qui achète le Season Pass dans 6 mois. Ouais. Bon, voilà, la question c'est qu'est-ce qui va se passer pour cette personne-là. Après, Square Enix eux-mêmes ne savent pas. Je pense qu'aujourd'hui ils savent où ils vont aller avec les DLC, mais on a rencontré la personne en charge des DLC à Paris Games Week. Le jour, la veille, c'est Monsieur Savatari, la veille de l'annonce, en tout cas de nouvelles informations sur les DLC, lui-même ne nous a rien dit. Pourquoi?
C'était la pire interview de l'histoire des
interviews. On a beaucoup hésité à la publier d'ailleurs.
Moi je ne l'ai pas publiée parce que j'ai
refusé carrément de venir.
Non, on ne l'a pas fait.
Non, ouais, non plus.
Mais
il n'y avait rien à sortir.
Il n'y avait rien à en dire. Lui-même ne pouvait rien nous dire. Je pense que tout simplement il ne savait pas encore ce qu'il allait en faire.
Finalement, le lendemain, les concept arts vont être présentés.
Des concept arts, on est d'accord. Alors, certains journalistes ont pu voir a priori quelques petites séquences de version alpha du premier DLC. Je pense que c'est encore en pleine réflexion et le mode multijoueur, ils ont fait un effet d'annonce, je pense qu'ils sont encore en pleine réflexion dessus, on n'est pas prêt de le voir arriver, je pense que ça arrivera à mon avis en fin d'année 2017 peut-être et encore.
Ça serait quand même assez étonnant de voir DLC sortir après la 2017,
ouais.
Je pense qu'un an après c'est
le bon timing,
sera quand même, ouais, c'est...
un an après avec une version GOTY, je sais plus comment ils appellent ça, mais une édition GOTY ultime qui intègre tous les DLC plus le mode online,
ce qu'ils cherchent particulièrement avec le mode multijoueur, c'est de faire un peu comme le font certains jeux occidentaux. Tu parlais d'Uncharted tout à l'heure, je pense que c'est ça. Uncharted sort maintenant avec un mode multijoueur. Et c'est une manière pour eux d'avoir un mode multijoueur qui permet de monétiser davantage le jeu parce que ça inclut des éléments de. Tu peux acheter des armes, tu peux acheter des costumes supplémentaires. C'est comme ça qu'ils le monétisent, sinon ça n'a aucun intérêt.
Uncharted était pensé depuis longtemps avec le mode multijoueur, depuis le 12e épisode.
Oui, bien sûr, mais c'est pas, ça n'empêche pas qu'ils voient, ils voient que les jeux occidentaux font ça, ils se disent pourquoi est-ce que nous on le ferait pas aussi.
Le jeu n'est pas pensé déjà.
Non, là ils vont le greffer. Et d'ailleurs, ils commencent par une étape de peut-être pouvoir commencer à personnaliser un mode d'édition des personnages. On sent que c'est la première pierre pour le mode online. Est-ce qu'on a vraiment envie de personnaliser nos personnages dans le jeu?
Je pense qu'avec ça, ils essaient de s'adresser à un autre public, en fait. Je pense qu'ils continuent les clins d'œil du public occidental qui s'imaginent que ça va parler aux gens qui, effectivement, jouent à ce genre de mode multijoueur des jeux occidentaux.
Ouais.
pas à nous, hein. Je pense pas que c'est ce qui nous intéresse particulièrement.
Bah, pour un jeu solo, c'est pas forcément le. Enfin, pour un Final Fantasy solo, c'est pas forcément le plus intéressant. Enfin, le plus intéressant, mais ils n'ont pas encore annoncé comment ils allaient greffer la personnalisation des personnages, la création d'avatar.
Moi, je pense que si.
Il y a des problèmes scénaristiques qui vont se poser aussi.
Si le mode online est là pour pouvoir refaire des grands combats, comme le dernier combat par exemple, à 4, refaire peut-être même des combats contre certains monstres de haut niveau, comme ceux qu'on peut voir à Insomnia vers la fin du jeu, qui est quand même un passage assez cool hein, en termes de référence et de fanservice, ça c'est plutôt, ouais, c'est plutôt bien joué. Ça pourrait être pas mal. Je pense pas qu'ils vont nous dire vous refaites l'histoire de FF15 à 4.
Je les vois plutôt développer quelque chose de supplémentaire.
Je pense que c'est ça.
Un peu à la FF14 avec des niveaux faciles, extrêmes peut-être. Ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment la vision?
Je pense que c'est un moyen de faire des extensions avec des nouveaux boss, clin d'œil à d'autres FF et des gros combats vraiment compliqués quoi.
Ouais. D'accord. Et excepté donc ce mode, le multijoueur et tout, pour finalement Final Fantasy XV, vous espérez une suite ou un agrandissement de l'univers à travers des films?
Moi, je veux un prologue, moi. Moi, je veux un prologue. Je veux pas une suite.
Il y a un prologue qui est sorti en PDF.
Non, je pense qu'ils ont tout intérêt à soit un prologue, soit des événements annexes. Mais je pense que ce qui serait pertinent, c'est pas d'enrichir l'univers, mais en tout cas de le clarifier sur certains points. Et ça passera par des événements qui se passent avant. Quand on voit la chronologie, il y a énormément de choses à dire. Ça peut être hyper intéressant.
Donc, à travers des jeux ou des produits. Parce que Final Fantasy XV est quand même une production transmédia.
Ouais, mais ça sera des jeux, il faut qu'ils rentabilisent ce putain de moteur qu'ils ont développé. Je pense qu'il faut le stabiliser.
C'est possible de rentabiliser le moteur en développant d'autres jeux avec.
Ouais, bien sûr.
C'est ce qu'ils sont d'ailleurs en train de faire, ils l'ont déjà annoncé, Tabata veut faire une nouvelle licence. Moi je pense qu'ils ont tout intérêt à faire ça et laisser FF15 continuer à le faire vivre pendant un an et demi avec des DLC. Et arrêter, parce que...
Faut passer à autre chose.
Faut passer à autre chose, exactement. Toi, sans rancœur, quoi que ce soit, mais il faut passer à autre chose.
Toi, Jérôme, donc tu verrais, toi, une suite ou l'agrandissement du scénario?
Je pense que c'est possible, mais je suis assez d'accord avec le fait qu'il faut s'arrêter là. C'est très dommage, hein. Le scénario est pas assez touffu. C'est dommage qu'on s'arrête là, mais comment se greffer Il pourrait faire, à partir de la fin, une histoire alternative. Mais peut-être que c'est pas une bonne idée, finalement.
Bah, donc, on va terminer ce débat avec une dernière question que je vais demander de vous répondre en une seule phrase. Qu'est-ce que tu attends d'un éventuel Final Fantasy XVI? Vous avez 4 heures.
Mais une seule phrase de 4 heures.
Une phrase de 4 heures, bah, je peux beaucoup parler. Hein. Bah, moi, j'attends qu'il me fasse de nouveau rêver avec une histoire, vraiment une histoire. Voilà. Mm-hmm. Une histoire vraiment prenante et qui me marque à vie.
Et toi, Jérôme? Parce que aussi, je tiens à préciser, une chose importante, c'est que Final Fantasy XVI sera donc le premier Final Fantasy vraiment original qui n'a pas été annoncé depuis des années, qui n'est pas en lien avec la Fabula Nova Crystallis. Mm-hmm. Donc ça sera enfin du renouveau depuis plus de 10 ans.
Depuis 14.
Je suis assez d'accord avec Arsène encore une fois, mais s'il faut dire quelque chose de différent, je pense que je dirais... moi j'aimerais bien un Final Fantasy qui retourne au médiéval.
Ah oui, je suis assez d'accord avec ça.
Ouais. Quelque chose qui revienne un petit peu au fin d'un moto du 1, du 3, du 5.
Vous pensez pas qu'ils vont continuer dans le réalisme comme Final Fantasy 8 a continué dans
J'attends que le 16 me surprenne, mais j'irais même plus, j'attends de pas forcément être d'accord avec tout ce qu'ils vont montrer quand ils vont l'annoncer. Pour moi, FF, c'est un jeu qui doit nous surprendre en bien et peut-être même nous dire, mais là, c'est un peu bizarre de faire ce choix-là. Et finalement, quand on y joue, on fait, ah ouais, ça colle. Donc, moi, j'attends de pas forcément être toujours d'accord avec ce qu'ils vont faire comme choix. Ça veut dire qu'au moins, ils auront réfléchi.
Et
un univers médiéval comme on a pu le voir dans le 9 et dans le 12, moi qui sont moi en tout cas ceux qui me parlent le plus, je serais assez d'accord avec ça.
Ça me parle pas spécialement l'univers médiéval, j'aime ça, le 9 j'adore d'ailleurs, mais par contre j'aime beaucoup les choses qui sont plus modernes et plus futuristes, même des univers peu exploités, l'univers d'FF6 par exemple qui était steampunk, c'était assez original et c'est pas très courant finalement. D'accord. Moi, tout ce que je veux, c'est être surpris par FF16. Voilà. Tu l'as résumé, ça va être le premier qui va être à nouveau depuis longtemps. J'aimerais que simplement que. Et maintenant, ils acceptent que ça va être un nouveau projet et ils vont pas s'apitoyer sur le passé. Ils repartent.
Qui prennent un peu de risque, bordel.
D'accord.
Et qu'ils ne le dévoilent pas trop tôt, surtout.
Bah, si Square Enix nous entend, voilà, voilà la demande de la communauté Final Fantasy en France vis-à-vis du prochain épisode. Donc, Donc, s'il vous plaît. Merci d'être venu. Merci d'avoir participé à ce débat.
Avec plaisir.
Merci. Et j'espère vous revoir bientôt. Et salut Internet. Ciao.
Salut.
Salut.